pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, c'est un journal aujourd'hui sur un mot qui apparaît souvent dans l'actualité, alors qu'il n'a rien à voir avec Johnny Hallyday. C'est le mot de néoconservateur, terme polémique qui surgit souvent en opposition à ce qui serait bien pensant. Il reste pourtant peu défini. L'occasion est donc donnée aujourd'hui de le faire grâce à cet ouvrage de Juliette Grange qui vient de paraître aux éditions Pocket. Alors, qui sont les néoconservateurs ? Qu'est-ce qu'être un conservateur aujourd'hui ? Ce qui peut toujours sembler un peu paradoxal quand on se dit que néo veut dire nouveau et conservateur, eh bien conservateur, soit le contraire a priori de la nouveauté.
Thank you so much, it's so great to be in Iowa, we're here just thawing out, looking around at all of you, you hard-working Iowa families, you farm families, and teachers, and teamsters, and cops, and cooks. You rock and rollers and holy rollers. I was told, you know, warned left and right, you are going to get so clobbered in the press. You are just going to get beat up and chewed up and spit out. And, you know, I'm thinking, and, yeah.
D'abord apparu aux États-Unis, souvent associé au Tea Party et identifié à quelques personnes, comme celle de Sarah Palin que l'on vient d'entendre, le néoconservatisme est un mouvement politique qui mêle néolibéralisme et retour aux valeurs morales et religieuses. Il est pourtant nouveau dans son appellation et dans ses moyens de diffusion. Clubs, think tanks, lobbies, blogs, forums, mouvements divers, cercles catholiques, anti-IVG, royalistes, etc. C'est ainsi qu'il dépasse largement le cadre du Tea Party ou la personne de Sarah Palin, et que depuis les années 2000, comme l'a observé Juliette Grange, le néoconservatisme n'est plus seulement américain, mais aussi français. Mais alors, qu'est-ce qu'un néoconservatisme hors les murs des États-Unis ? Ce qui se joue ici, c'est de savoir en quoi il consiste, en quoi consiste ce paradoxe d'une nouveauté qui veut conserver, préserver, protéger un état des choses tel quel, mais aussi de savoir ce qu'un conservatisme peut conserver de lui-même à travers les frontières et le temps. Au fond, la question, s'il n'y en a qu'une, est celle-ci : comment un conservatisme peut-il être nouveau ? Comment peut-il se régénérer, se renouveler à travers ses adhérents, ses moyens et les pays sans se transformer, en étant donc toujours le même ? Autrement dit, encore, comment conserver le conservatisme ? Eh bien, deux exemples peuvent nous aider ici. Voici le premier.
En France, ce sera le détonateur d'un mouvement plus profond, plus vaste, d'une épreuve, d'un affrontement, mêlant pêle-mêle aux revendications estudiantines, celles du monde ouvrier, des classes moyennes, des intellectuels et des paysans. Le 2, les cours sont suspendus à Nanterre, et le 3, la police fait évacuer la Sorbonne. Les manifestations sont violentes, et le 5 mai, 13 manifestants seront condamnés, dont 4, à des peines de prison ferme.
Mai 68 est un des exemples régulièrement convoqués par les néoconservateurs, mais aussi la Révolution ou encore la République. C'est que le néoconservatisme, à lire cet ouvrage, est d'abord une affaire de réinterprétation. C'est une affaire de rénovation, de restauration des événements et des noms dans leur sens caché, et qu'il s'agirait donc de dévoiler dans leur véritable signification. On est proche ici du complot. Avec le néoconservatisme, mai 68 n'est donc plus ce que l'on a pu croire, une révolution ou au moins une révolte. Non, c'est une démolition, une déconstruction de ce que devait être l'ordre et la morale. Avec le néoconservatisme se joue donc la déconstruction de la déconstruction, de ce qui est en tout cas considéré comme tel, de ce qui était appelé comme tel, mais à tort. Tout est donc bien une question de rénovation et de restauration, mais d'abord dans notre manière de parler, de nous exprimer, d'opiner. Le néoconservatisme ne change pas, lui, il nous pousse à changer nous en prétendant appeler un chat un chat.
La mobilisation s'amplifie contre la loi Taubira. Il y avait 1,4 million de participants de la Grande Arche de la Défense jusqu'à la place de l'Étoile à 5 km de là, 1,4 million selon les organisateurs, 300 000 personnes selon la première estimation de la préfecture de police de Paris.
Vous ne pouvez pas aller contre le mouvement de la conscience humaine. On ne change pas l'être humain, sauf à le livrer au marché. C'est ça qui nous attend. Parce qu'en ouvrant le mariage, on ouvre les droits procréatifs. Le mariage, c'est la procréation. Les droits procréatifs, pour deux personnes qui ne peuvent pas procréer ensemble, c'est artificiel, ça s'appelle la PMA et la GPA. Ça veut dire que demain, l'être humain est mis sur le marché.
Deuxième exemple du néoconservatisme, la manif pour tous. Mêlant aussi bien théoconservateur, anti-IVG ou anti-Taubira, là encore, une Frigide Barjot prétendait nous ouvrir les yeux, nous rappeler ce qui était au fond à l'œuvre dans le mariage pour tous. Mais n'est-ce pas là un pur artifice, de dangereux jeux sur les mots? Vouloir ouvrir les yeux, vouloir déconstruire, ramener du sens et du bon sens n'a rien de neuf. En cela, le conservatisme se conserve bien. Mais former l'opinion en la transformant, là est le paradoxe et le danger, car non seulement transformer l'opinion, la tordre et la détourner n'a plus rien dès lors d'une restauration, mais c'est oublier qu'elle se forme elle-même et que son bon sens ne se fabrique pas et n'est pas à faire. Et Adèle, si vous voulez donc en savoir plus sur les néoconservateurs, eh bien lisez ce livre de Juliette Grange, c'est paru aux éditions Pocket.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.